Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
À peine, même pas deux, trois semaines après mon arrivée, il y a eu déjà les premiers recrutements. On est passé de 5 en quelques mois à 200 peut-être. Et après, en fin de l'année, on était déjà à 700.
Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Linda Amarkoja. Linda est la première employée de chez Groupon, une entreprise qui a connu une croissance fulgurante au début des années 2010. Elle nous raconte comment elle a rejoint cette incroyable aventure, son rôle en tant que Sales Director, et elle nous partage ses conseils pour réussir au mieux ses entretiens. Enfin, Linda nous parle de sa nouvelle activité de sous-location professionnelle.
Groupon, clairement, Franck Cousin me l'avait dit lui-même en personne. Il m'avait dit, moi, je m'en fiche que tu portes un voile, une kippa ou un piercing ou t'es tatoué. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu fasses ton travail comme tu le fais bien.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Linda.
Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Abdel Ahman.
Comment tu vas?
Je vais bien, alhamdoulilah, et toi?
Super, super. Et c'est marrant parce que j'ai découvert ton profil au moment où on en parlait, hein, j'écoutais le podcast de ton ancien patron chez Groupon.
Oui.
J'écoutais un podcast sur Génération Do It Yourself là, qui est sorti récemment et je suis tombé sur ton profil quelques jours après, dans cette période-là, et j'ai vu que tu avais une grosse expérience chez Groupon, genre plus de 10 ans, et j'ai dit, elle doit être là. Puis soit le début, soit quasiment le début. Et voilà, après, je t'ai contacté pour le podcast et puis tu as accepté, alhamdoulilah. Pour commencer, Linda, je te propose de te présenter assez brièvement, nous dire un peu qui tu es.
D'accord. Donc, Linda, 40 ans. Effectivement, en fait, le podcast, donc tu es tombé sur le podcast où Franck Zorn, donc était le fondateur de CityDeal avant que CityDeal soit racheté par Groupon. Donc dans lequel il s'exprimait, donc enfin on voyait son parcours, enfin on écoutait son parcours. Effectivement, Franck m'avait recruté directement à la création de la société, donc en 2010. Et donc là, donc ça fait plus de 11 ans que j'y suis maintenant. Effectivement, c'est 11 ans, c'est énorme, et en même temps ça passe tellement vite qu'on n'avait pas l'impression que ça fait 11 ans. C'est hyper challenging, hein, c'est une startup, et puis bon, maintenant c'est en phase de maturité. Et j'ai clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et beaucoup évolué dans l'enceinte de cette boîte. Et c'est vrai que Franck, en l'occurrence, que tu as écouté, m'a appris et transmis beaucoup de choses, et notamment cette âme entrepreneuriale qui nous a, d'ailleurs, qu'elle a transmis à pas mal de ses salariés qui aujourd'hui ont aussi monté leur boîte. Donc ça, c'était hyper... Enfin, c'est toujours aujourd'hui, grâce à ça, j'ai vraiment beaucoup appris, et le terme que je peux employer, ce que j'aime bien employer, c'est vraiment ces transformations, parce que c'était vraiment le cas.
Oui. On va essayer de comprendre un peu ton parcours. Est-ce que tu peux me dire un peu c'est quoi ton parcours éducatif?
Tout à fait.
Juste pour comprendre un peu comment tu en es arrivé à rejoindre Groupon. Donc, tu as eu quelques expériences avant, donc je te laisse développer tout ça.
Oui, d'accord. Donc, en fait, je suis sortie de l'école. Moi, j'ai terminé mes études en 2005, où j'étais, donc j'ai un Master 1 à l'école supérieure de vente de Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est il y a très très longtemps, hein. Et en fait, quand je suis sortie d'école, j'ai commencé ma carrière avec des postes de chasseur, de commercial terrain pour différentes structures. Et ensuite, j'ai été consultante en recrutement dans un cabinet de recrutement. Suite à cette expérience, j'ai rencontré donc un de mes clients qui a souhaité me débaucher, mais en étant indépendante, c'est-à-dire que donc j'ai du coup créé ma structure en 2009 où j'ai été consultante pendant un peu plus d'un an pour des médecins radiologues en fait. Eux, c'était des médecins radiologues qui avaient mis en place un système d'interprétation de radio à distance. Donc, à l'époque, c'était surtout très, très connu, enfin très, très répandu entre les États-Unis et l'Inde, par exemple. Mais en France, ça restait très, comme dans le système santé français, c'est toujours un peu compliqué. Donc, en France, ce n'était pas encore dans les mœurs. C'était le cas entre hôpitaux, c'est-à-dire que l'hôpital, par exemple, de la Salpêtrière pouvait envoyer ses clichés à l'hôpital Henri Mondor, par exemple, mais dans le privé, mais en externe, c'était très, très peu répandu. Donc, il a fallu tout faire du lobbying, mettre un système en place. Mais donc, au bout d'un an, C'est vrai que c'était un peu compliqué. Le business model que j'avais mis en place n'était pas forcément spécialement viable. Et j'avoue que je travaillais seule, donc j'avais besoin d'une équipe, moi, pour me stimuler, pour me tirer vers le haut. Donc j'ai arrêté cette structure. Et c'est là, en fait, quand j'ai commencé à postuler dans des entreprises, où j'ai rencontré, où j'ai postulé donc, chez Groupon. Donc à l'époque, c'était CityDeal. Et en fait, c'était assez marrant. Oui.
Juste avant de rentrer dans ça, si on reste un peu sur l'éducation, tu savais ce que tu voulais faire de la vente pendant tes études? Enfin, c'était quelque chose, c'était une vocation?
Oui, en fait, si tu veux, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu un bac, après j'ai fait un BTS en gestion de PME-PMI, je ne savais pas si je voulais m'orienter vers justement vers la vente ou vers la gestion financière. Et c'est grâce à ce BTS-là, entre guillemets, que j'ai su que je voulais faire de la vente. De la
OK.
vente, enfin, et occuper un poste à terme de direction commerciale. Donc d'où effectivement par la suite j'ai fait donc une école, l'école supérieure de vente de Saint-Germain-en-Laye, qui a confirmé effectivement mon souhait de poursuivre dans cette voie.
Je connais pas trop le monde de la vente, hein, mais est-ce que c'est un
Oui.
monde plutôt masculin, mixte, féminin?
Alors franchement c'est mixte, mais c'est vrai que après la vente il y a différents types de postes dans la vente, mais il y a des postes où c'est vrai que ça va être plus masculin. Par exemple, c'est vrai que les postes de terrain, il y a beaucoup de déplacements, on va beaucoup voir plus d'hommes que de femmes. Et ce n'est pas forcément un critère, enfin, dire, ce n'est pas forcément discriminant. Enfin, c'est-à-dire que lorsque les entreprises enfin, mettent des annonces, même en termes de sur les candidatures qu'ils reçoivent, on ressort plus de CV masculins que féminins. Parce que les femmes, c'est pas du tout, enfin, de part, peut-être qu'ils ont des enfants, etc., préfèrent pas ne faire effectuer des déplacements. Tout dépend aussi également de la région. À Paris, on va voir, ça va être plutôt la parité est plutôt respectée. Mais dès qu'on sort de Paris EDF, on va avoir plus de CV masculin que féminin.
Ok, et quand on monte dans les postes type directeur de vente, ce genre de choses, on bouge un peu moins,
Ouais,
j'imagine.
on peut dire, franchement, sincèrement, j'ai peu de recul par rapport à ça parce que chez Groupon, j'ai évolué vers des postes de management. Et chez Groupon, pour le coup, la parité est une politique non discriminatoire, et à savoir qu'il faut qu'il y ait une parité. Mais c'est vrai que à l'externe, des retours que j'ai, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de femmes dans les postes de direction commerciale, j'entends.
Oui, ok.
Non. Effectivement,
D'accord.
c'est plus les hommes qui vont être dans ce type
Ouais,
de poste.
c'est souvent même le cas de manière générale dans les postes de direction, de
Tout à fait.
management.
Oui.
Il y a souvent plus d'hommes que de femmes. Ok.
Exactement.
Je te laisse rejoindre sur ton histoire quand tu as rejoint un Groupon qui s'appelait Next City, tu m'as dit? Avant? Qui s'appelait
CityDeal. CityDeal,
CityDeal,
tout à
pardon.
fait. Voilà. Et en fait, CityDeal, ça avait été fondé donc, par les frères Somewhere. Donc, c'est des frères, voilà, sont trois frères. C'est des business angels, hein, qui investissent, qui vont copier des modèles qui existent ailleurs et qui vont tenter de les recopier donc en Europe. Et
Rocket
après, le
Internet.
but, voilà, exactement. Exactement, Rocket Internet. Et après, le but, c'est de se faire racheter. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, en janvier 2010, ils ont donc fondé cette idylle à Paris, Berlin, Londres. Et comment dirais-je, ils ont vraiment fait vraiment un copier-coller, hein, même de la page, de l'interface, etc. Et c'est vrai que ça très très mais vraiment c'est hallucinant parce que donc moi je suis arrivée début février 2010 et dès quelques mois après on a vite été racheté par Groupon donc l'américain le grand frère et forcément qui dit rachat dit qu'il faut vite accélérer en termes de croissance et puisqu'après quelques mois après encore on est rentré en bourse donc il a fallu ça a été très très vite, hein. Donc,
Toi,
et
ça faisait combien de
d'ailleurs,
temps que tu étais rentré? Avant le rachat, t'avais rejoint.
ça faisait 6 mois que j'étais rentrée.
Ok.
Je suis la première salariée à avoir intégré Groupon.
Employé numéro 1.
Tout à fait, exactement. En fait, on était cinq, dont les deux fondateurs. Donc, je ne compte pas les investisseurs, je compte vraiment donc Frank Zorn et puis sa femme, Barbara. Qui donc ont du coup fondé CityDeal. Et après, il y avait trois stagiaires. Le directeur financier et puis moi. Donc après, très vite, au bout de à peine, même pas 2 3 semaines après mon arrivée, il y a eu déjà les premiers recrutements. On est passé de 5 en quelques mois à 200 peut-être. Et après, en fin de l'année, on était déjà à 700. Donc,
Wow.
Bah là, on a fait la une de Forbes, hein, Groupon a fait la une de Forbes, hein, c'était la croissance la plus extraordinaire. Donc à l'époque, hein, on avait même fait mieux que Google en termes de croissance. De la
Incroyable.
vitesse de croissance par rapport, voilà. Donc ça a été très très vite. Et puis bon, moi, bah, ça a été passionnant. Enfin, c'est ça qui m'a. D'ailleurs, en fait, pourquoi j'avais dit oui à Groupon, enfin à City Deal,
Comment
parce
tu l'as
qu'elle.
trouvé, Stylie?
Alors, en fait, c'était une annonce. J'ai répondu à une annonce. À l'époque, c'était sur donc Monster. Je ne sais pas si Monster existe encore aujourd'hui,
Je
mais
pense
c'était
que
une
oui.
annonce sur Monster. Et en fait, donc c'était un poste de commercial lambda au départ. Et j'avoue que j'avais postulé à ce poste-là comme j'ai postulé dans d'autres postes.
Ouais.
Quand j'ai eu l'entretien avec donc City Deal, c'est vrai que j'ai tout de suite été, quand ils m'ont expliqué bah, que c'était le modèle américain Groupon, donc j'ai été voir forcément donc, la page, enfin le site américain. Et j'ai tout de suite accroché, en tout cas sur le business model, sur le concept. Ça m'a tout de suite fait dire, moi je trouvais ça hyper top de pouvoir démocratiser. Voilà, des prestations qui n'étaient pas forcément accessibles à par exemple, un super restaurant sympa ou un client, enfin, un utilisateur ne serait pas forcément parti, mais grâce à un deal avec une remise, il découvre une expérience, parce que finalement, c'est l'expérience qu'on vend, ce n'est pas forcément de la remise, mais c'est vraiment une expérience. Eh bien, je trouve ça vraiment top. Et si tu veux, d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'avais donc d'autres aussi, j'avais d'autres réponses à d'autres candidatures, hein, à d'autres postes ailleurs. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais une shortlist de quatre entreprises, dont City Deal. Donc les trois autres, c'était vraiment des grosses boîtes déjà bien structurées, avec tout ce qu'il fallait, avec tous les avantages qu'un salarié peut éventuellement chercher, donc mutuelle, c'était restaurant, grosses boîtes, etc. Donc quand j'en parle autour de moi, j'avoue, j'avais un doute, je ne sais pas, il n'y avait pas quoi choisir parce que moi, c'était Groupon qui me faisait de l'œil, hein, j'étais attirée par ça. Tout le monde autour de moi me disait, mais non, mais va pas dans cette boîte-là, elle n'existe même pas, ça fait à peine 2 semaines qu'elle est inscrite sur société.com. Et franchement, te connaissant, tu as bossé comme une tarée et ça se trouve, dans 2 semaines, la boîte, elle va fermer. Il n'y a que cette personne autour de moi qui m'a encouragée, qui m'a dit, mais en fait, quand tu parles de cette idylle, t'as des yeux qui brillent. Et du coup, j'ai foncé. J'ai choisi cette idylle. Et ben, aujourd'hui, 11 ans plus tard, c'est sans regret que voilà, j'ai écouté ce que me disait mon instinct. Et je suis contente aujourd'hui d'avoir fait ce choix, parce que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma carrière.
Ouais,
En choisissant Groupon, quoi.
et surtout qu'à l'époque, l'ambiance start-up, entrepreneur, c'était pas spécialement autant à la mode qu'aujourd'hui. Donc, j'imagine que.
Exactement,
Ouais.
tout à fait, exactement, exactement. C'était pas forcément à la mode, mais c'est vrai que dans et c'est vrai que bah, fallait aussi bah, beaucoup beaucoup travailler. Et en fait, si tu veux, pour nous, c'était, enfin pour moi, donc je ne peux pas le nom de salarié, mais c'est vrai que c'était hyper passionnant et c'était même, enfin, c'était plus qu'un travail, quoi. C'est-à-dire que c'était tellement bah, c'était top, quoi. C'était vraiment la folie, et c'est pour ça que je pense que même toujours là aujourd'hui.
Et du coup, comment tu as évolué dans l'entreprise, vu que ça a énormément grossi? C'est
Alors.
quoi l'impact que tu as eu, toi, dans l'entreprise? Au début, ils t'ont pris comme simple sale, mais vu qu'ils ont recruté plein de personnes, comment tu as évolué,
Oui.
toi?
D'accord. Donc, en fait, effectivement, donc, je suis entrée en tant que sales. Bon, t'es très vite, hein, comme je te l'ai dit, ça a très vite, on a très vite, voilà, on a fait la croissance, ça a beaucoup évolué. Donc, du coup, l'impact que j'avais eu, c'est que c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver dans les premières. Donc, du coup, j'avais signé pas mal de beaux comptes. Et un an après, en fait, bah, vu que la boîte grossissait, il fallait aussi recruter des managers. En tout cas, refaire évoluer des managers parce qu'il y avait de plus en plus de sales et que les head-off avaient besoin d'avoir de l'aide, enfin, voilà, sur une équipe pour laquelle s'appuyer pour les aider à manager les commerciaux. Du coup, j'ai évolué un an après, plus de poil un an après, en tant que manager des ventes, où j'avais une moitié, donc moi j'étais sur Paris, hein, où j'avais la moitié de l'équipe de Paris. Donc, on était deux managers des ventes à avoir, enfin deux sales à avoir évolué vers un poste de manager des ventes. Donc, nous deux, on se partageait la ville de Paris. Et 2 ans après, on m'a donc j'ai évolué 2 ans après, où là j'étais donc city manager, où on m'a confié la totalité de la ville de Paris. Donc j'avais 20
Wow, ok.
commerciaux, 20 commerciaux dans mon équipe.
C'était par rapport à quoi qu'on t'a fait évoluer? T'étais plus performante ou c'était quoi?
Après, j'ai passé de, je vais essayer d'être humble, oui, effectivement, je pense c'est pas la performance, mais au-delà de la performance, parce qu'on peut très bien être pas super performant et pas forcément des bons managers, hein, c'est pas forcément lié, mais je pense qu'avec mon expérience en tant que manager de vente avec mon équipe, qui a, elle, progressé, tant sur le discours que sur la performance, que sur les soft skills et hard skills. Et du coup, parce qu'en tant que manager des ventes, j'ai continué aussi, moi aussi à montrer l'exemple en continuant ma fonction de sales aussi. Et que je pense que le fait d'avoir réussi dans les deux missions, donc faire monter mon équipe en compétences, mais aussi à côté de ça, continuer à montrer l'exemple en disant que bah, moi aussi, je peux continuer encore dessiner, je vous prouve que c'est possible. Je pense que c'est ça qui a plu, et qui fait que bah, en mars 2013, on m'a confié toute l'équipe parisienne. Donc, c'était vraiment une riche, parce que Paris, c'est quand même la deuxième ville européenne après Londres. Et forcément, on attendait beaucoup. Et pour avoir contribué à son développement, grâce aussi à mes managers, évidemment, ça leur a pas. Je pense que ça a été une évidence pour eux de me confier l'équipe.
Et du coup, le business model je crois qu'il a évolué un petit peu, non, de Groupon.
Tout à fait. Alors, en fait, avant, c'était donc one deal par jour. Enfin, c'était un deal par jour. Donc, il y avait un deal principal et un deal sur ce qu'on appelle main deal et side deal. Donc, en fait, on mettait, donc souvent, par exemple, un restaurant est à côté un massage, ou un massage à côté un restaurant, ou un restaurant à côté une sortie à Montgolfière. Voilà, donc c'était à chaque fois de catégories différentes.
Et vous disiez par exemple le prix normal de ces 100 €, mais nous on voulait faire à 65 €, un truc comme ça.
Et voilà, c'était des remises qui pouvaient aller de. Donc à l'époque, hein, ça a changé, mais à l'époque, c'était des remises, c'était minimum de remises, c'était 50% de remises. Ça pouvait aller à plus, mais à l'époque, pour être partenaire, c'était minimum 50% de remises. Et derrière, donc donc c'était, enfin, le partenaire ne payait pas de sa poche pour être sur le site. On prenait une commission sur les ventes. Et en fait, les clients achetaient le coupon et se rendaient sur place pour pouvoir bénéficier de la prestation. Et le partenaire se faisait payer par la suite par Groupon. On leur garantissait des clients. Puis après, les partenaires devaient donc les fidéliser ou faire la vente additionnelle. Enfin, par un restaurant, pouvait faire la vente additionnelle avec des clients qui avaient commandé un plat, un très plat, et puis sur place, le client pouvait prendre un dessert ou un coca, enfin voilà. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, un commercial avait beaucoup de comptes, donc du coup, il a fallu changer la structure commerciale, et donc du coup, il y avait donc parmi les commerciaux, des commerciaux chasseurs où eux devaient uniquement chercher des nouveaux partenaires, et ensuite, ce qu'on appelle les éleveurs, ou eux de faire donc des gestionnaires de portefeuille où en fait donc du coup leur but était de faire la rétention des partenaires qui étaient chez nous, hein, et de développer l'activité, de développer enfin de l'upsell, hein, de développer l'activité auprès de ces partenaires-là. donc
Donc
euh,
renouveler les promotions tous les
c'est
mois
ça
ou ce genre de choses.
exactement. Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, justement, avec cette nouvelle structure, il y a des opportunités qui ont été du coup ouvertes. Et c'est vrai que moi, j'en ai saisi une. C'est-à-dire qu'ils recrutaient, du coup, ils cherchaient des managers pour les éleveurs, justement, parce que du coup, c'était une nouvelle cellule qui n'était pas encore créée. Et donc, du coup, moi, je me suis portée candidate comment dirais-je, pour occuper un poste de manager, donc inside sales, où là, je m'occupe uniquement que des éleveurs et donc du développement, voilà, des portefeuilles, la gestion des portefeuilles. Donc, ça, c'était en 2014. C'était en 2014. Et donc, depuis, je suis toujours restée dans ce poste-là. Et c'est vrai que j'ai, pareil, en fait, moi, je pense que je dois être, dois être, comment dirais-je, parce qu'à chaque fois, j'aime bien, en fait, moi, commencer quelque chose qui n'a pas été fait. Et ouais. C'est ce qui s'est passé là encore aussi, aujourd'hui avec ce poste-là où il n'y avait pas encore de manager dans cette équipe. Et après, bien sûr, par la suite, comme l'équipe grossissait, il fallait recruter d'autres managers. Enfin, c'est des managers qui étaient en interne qui ont évolué, qui sont passés du coup manager dans cette équipe. Et c'est vrai que c'était top parce que c'était un nouveau métier à apprendre. C'était des nouveaux profils à gérer parce que moi, jusqu'à présent, jusqu'à l'époque, je gérais des profils plus terrain, plus chasseur. Et là, c'était les profils sédentaires, c'était des profils différents. C'était hyper challenging. Il fallait apprendre aussi le nouveau métier de gestionnaire d'account management, hein, qui est vraiment un métier différent de chasse, où il y a des tips à avoir, une méthode de travail à avoir. Et il a fallu la revoir plusieurs fois jusqu'à trouver la bonne méthodologie pour nos partenaires, pour nos sales et pour Groupon, bien sûr, en l'occurrence. Et c'est vrai que là, en 7 ans, forcément, il y a eu beaucoup d'évolution sur les mêmes postes. Hein. C'est le même poste, mais le métier a pas mal changé. Et c'est vrai que c'est pour ça, parce qu'à chaque fois, on se dit que en 2016, j'avais eu un sentiment de c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour en fait de mon métier, j'ai plus rien à apprendre, j'apprends plus rien, voilà. Et en fait, ça c'est quand on arrive à cet état d'esprit, c'est soit parce qu'effectivement il y a plus rien à apprendre, mais c'est faux parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre, soit parce que on traverse une période un peu passage à vide et du coup c'est là où il faut se remettre en question justement, et c'est ce que j'ai fait. Il y a eu pas mal de changements de direction, etc., et c'est vrai que du coup ça avait pas mal travaillé en moi, et en fait au contraire ça m'a permis vraiment de revoir ma façon de travailler, me remettre aussi en question, les méthodologies de travail, de management, de progresser, quoi. Et c'est vrai que c'était reparti. En fait, là, j'étais reparti pour encore quelques années parce que ça m'a vraiment permis et ça, je me suis dit, en fait, on a toujours quelque chose à apprendre. On ne fait jamais vraiment le tour d'un poste parce qu'il y a toujours des choses, des éléments qui vont arriver, qui vont remettre en question, qui vont tout chambouler à la façon de travailler. Sans travailler, que du coup, il faut toujours repenser, innover et se renouveler, en fait, simplement.
OK. Par rapport au business model, tout à l'heure, on n'a pas fini de répondre à la question.
Oui.
Donc, au début, c'était un deal et un side deal.
Et c'est
transformé en une liste.
Ouais, c'est vraiment une marketplace après. Voilà, c'était vraiment une marketplace avec toutes les catégories confondues. Mais après, bien sûr, il y a un filtre, il y a le filtre à choisir. Après, c'est en beauté, restaurant, loisirs, et après, il y a encore des sous-filtres. Mais bien sûr, il y a une marketplace, mais bien sûr, c'est pas non plus le fourre-tout. C'est-à-dire qu'il y avait, notre sales marketing, il y avait une liste, avec des, comment dirais-je, des prérogatives, il savait qu'il nous fallait, par exemple, j'ai une bêtise pour cette semaine, X deal coiffure, X deal beauté, par rapport à la demande, par rapport aux demandes des internautes. Donc, après, c'était vraiment stratégique aussi. C'est-à-dire que nous, d'ailleurs, nos commerciaux, on les orientait dans la négociation, dans la prospection, vers les deals que recherchaient surtout les internautes. Il fallait vraiment qu'il y ait une vraie corrélation entre la supply et la demand.
Ouais. Puis j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de saisonnalité, les fêtes, ce genre de choses. La période hivernale, la période estivale, c'est des différents
exactement.
Types de deals.
Tout à fait, exactement. Il y avait des offres, le marketing événementiel, hein, donc Saint-Valentin, Noël, etc. On savait que, par exemple, pour Noël, Saint-Valentin, Noël, par exemple, c'était les deals massage qui plaisaient beaucoup, mais également les deals, tout ce qui était loisirs, donc les voitures ou le vol en hélicoptère à offrir. Ensuite, il y avait aussi les fêtes fêtes des pères et fêtes des mères. Il y avait aussi la rentrée. Enfin, voilà, à chaque thème, il y avait toujours de quoi alimenter, en tout cas, notre marketplace est toujours marketé à chaque fois vraiment autour de ce thème-là. Et quand il n'y avait pas ces événements, c'était ça, en fait, il y a des études qui sont faites pour savoir ce que recherchent en fait nos abonnés. Et à partir de là, on adaptait du coup le supply par rapport à la demand.
Ok. En tant que musulmane, toi, ça a été, pas forcément qu'à Groupon, mais même avant aussi, ça a été quoi tes défis personnels?
Alors, chez Groupon, clairement, je n'ai pas du tout rencontré de, voilà, comme je l'avais dit, de soucis par rapport à la religion. Moi, quand je suis arrivée chez Groupon, je ne portais pas le voile, ça s'est fait par la suite. Et comme toute personne musulmane, j'avais de l'appréhension. Bien que je connaissais déjà, enfin voilà, je savais que le Groupon n'était pas du tout, enfin voilà, ils sont clairement pas du tout, enfin voilà, il n'y a pas de discrimination par rapport à ça, mais quand même, tu sais, on a toujours cette petite voix dans l'intérieur qui nous dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, enfin voilà, donc, et en fait, par rapport à ça, bien au contraire, c'est-à-dire que ça avait bien été accepté, et enfin voilà, quoi, ça n'a pas empêché mes évolutions. Je ne dis pas que c'est grâce à ça que j'ai évolué, mais en tout cas, Groupon, clairement, Franck Zin me l'avait dit lui-même en personne. Il m'avait dit, moi, je m'en fiche que tu portes un voile, une kippa ou un piercing ou t'es tatoué. Moi, ce qui m'importe, c'est que tu fasses ton travail comme tu le fais bien et que, voilà, bien sûr, que je respecte les personnes qui sont dans, voilà, qui sont donc avec qui je travaille, quoi, tu vois. Et le reste, ils s'en fichent. Donc,
Et comment ça s'est passé? Tu es venu les prévenir avant ou le jour où tu es arrivé par surprise
pas du
comme ça
tout.
le
En
jour?
fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai porté le voile, quand j'ai commencé à porter le voile, je le portais pas encore au bureau, je le portais à l'extérieur. Mais du coup, les gens le savaient parce qu'ils me voyaient en sortant que j'en mettais et puis que je croisais mes collègues le matin en venant au bureau, ils me voyaient que dans le métro, je commençais à le retirer, par exemple, le matin en venant au bureau. Et c'est des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu le mets pas encore au bureau? D'autres, au contraire, me disaient, ah ouais, non, franchement, je ne veux pas. Bon, tu as toujours des personnes, bien sûr, qui auront qui disent, ouais, on est un pays laïque, etc. Enfin, bref, ça, je ne les écoutais même pas, mais je ne rentrais pas dans ce débat-là, d'ailleurs. Mais du coup, j'avais tout ça, ça fait dans mon tête, ça faisait, ouh là là, ça se mélangeait. Et puis, en fait, un jour, je me suis dit, en fait, tout le monde, ça faisait 6 mois que seulement je le portais. J'ai dit, tout le monde le sait que je le porte. Et en fait, je ne me sentais pas moi, complètement honnête vis-à-vis de moi-même déjà. Et c'était très, très dur. Franchement, c'était très dur vis-à-vis de moi déjà. Et par rapport à Dieu, en fait, hein, je me sentais vraiment hypocrite. Et ça me travaillait de plus en plus, mais vraiment de plus en plus. Ça me bouffait clairement. Hein. C'est un matin, je me rappelle, un truc tout bête. Hein. J'avais rendez-vous chez le dentiste, donc j'étais au bureau le matin. Et en fin de matinée, j'avais rendez-vous chez le dentiste. Donc du coup, je suis partie à mon rendez-vous chez le dentiste. Et à ce moment-là, le voile n'est pas. Parce que le dentiste était vraiment à côté du bureau. Je n'ai pas porté le voile. Le chemin entre le bureau et le dentiste, je n'ai pas porté le voile. Et en revenant, et là, je me suis mise à pleurer. Et j'ai fait non, c'est pas possible. Et je sentais vraiment trop mal par rapport à ça. Et un jour, un matin, je suis venue avec. Je me suis dit, bon, tout le monde le savent. Et puis certains m'ont déjà vu avec, comme je te dis, en bas du bureau ou dans le métro. Donc je me suis dit, bon, je viens, je place en confiance en Dieu. Et de toute façon, je sais que la direction ne me. En fait, moi, c'est pas par rapport à la direction, je savais très bien que la direction ne me dirait rien. C'est par rapport au regard des gens, des collègues, en fait, que j'avais un peu peur. Et puis finalement, ça s'est hyper bien passé. Donc, tu as toujours des personnes qui, bien sûr, ont jasé, ça c'est normal. Hein. Mais dans la majorité, c'était vraiment bien. Enfin, voilà, j'ai pas eu de. J'ai eu, mais vraiment aucune représailles, rien du tout. C'était. C'était nickel. Et après, là, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, quoi? Et vraiment, non, très, très bien, parce que bah, vraiment super. Donc, des personnes m'ont même félicité en disant que j'étais courageuse. Et en plus, après, bon, je ne sais pas si tu vas le mettre dans le podcast, ça, mais je l'avais fait. En fait, si tu veux, quand je l'ai fait, c'est parce que je revenais de la Mecque. J'avais fait le petit à l'Alhambra.
Ouais.
Et c'est là, en revenant, Je me suis dit, alors que j'avais passé 15 jours inoubliables, tu vois, et je me dis, c'est là justement que j'ai, que juste après j'ai mon
Oui.
rendez-vous chez le dentiste, il me sentait trop mal, c'est pas possible. Je me dis, comment tu, après avoir fait ce magnifique voyage, voilà. Et du coup, c'était vraiment le déclic. Et après, après, ça c'est devenu normal quand même, hein. Puis les gens aujourd'hui, pour te dire, hein, pour donner des anecdotes, quand je vais dans les toilettes, du coup, avec les toilettes des femmes, et que parfois je retire mon voile parce que tu as mes ablutions ou que je dois, voilà, y a des collègues qui disent, ah, je t'ai pas reconnu. Ah ouais, ça fait bizarre. En fait, ça leur fait moins bizarre de me voir sans que de me voir avec. Le moins, ça me dit de me voir avec, quoi, tu vois, c'est pas. C'est des gens qui m'ont connu, tu sais, sans le voile, donc voilà.
Tu voulais le porter, mais tu n'as pas eu dans la tête un conflit de savoir comment est-ce que tu allais le porter, est-ce que tu devais prévenir avant, est-ce que tu devais parler
Si,
au chef avant?
justement, justement, je m'étais posé la question, c'est pour ça que j'ai demandé à quelques collègues, et c'est là que j'ai eu deux sons de clash. Il y en a qui me disaient, non, fais-le pas. Et d'autres me disaient, vas-y, si, fais-le, tu peux aller en parler à Stéphanie, qui à l'époque était la DRH. En fait, j'avais tellement deux sons de clash différents que ça m'a encore plus perturbée qu'autre chose. Et en fait, je pense indirectement, ce qui a vraiment fait sauter le pas, c'est qu'on était parti manger à midi avec donc l'équipe de management. Et en fait, ce jour-là, il pleuvait des cordes, mais il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait énormément. Du coup, on sortait du restaurant et c'était en hiver. Donc, du coup, tout le monde avait leur écharpe. Et du coup, en fait, moi, j'ai mis mon écharpe pour couvrir mes cheveux, mais parce qu'il pleuvait. Pas parce que je voulais porter le voile, tu vois. C'était pas par. Et du coup, ma collègue l'a fait aussi. Et mon boss de l'époque, mon N plus 1, me regarde avec un air, ah, ça y est, tu le fais maintenant? Je lui dis, tu sais que je le porte en dehors. Il fait, oui, je sais, j'ai appris ça. Et il fait, tu le portes au bureau. Et je lui dis, est-ce que ce sera un problème? Il me dit, de toute façon, je n'aurai pas le choix que de te laisser le porter. Et en fait, du coup, je crois que c'était ça qui m'a fait dire, écoute, c'est vrai, en vrai, t'es pas le. Parce que Paul Groupon a signé une politique de non-discrimination et qu'en fait, toutes les réunions doivent être ac sont acceptées et que voilà quoi. Et donc, quelques jours après, après avoir porté mon voile, l'appréhension que j'avais, c'était des rendez-vous clients. J'avais peur que ça mal perçu au niveau de mes partenaires. C'est pour ça que Groupon, peut-être, aurait peut-être pas voulu que je le porte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à un autre N plus 1. Je lui ai dit, j'ai un peu peur. Là, j'ai un rendez-vous avec ce tel client. Et tout, il me dit, écoute, non, normal, si ce client-là n'est pas content, tant pis pour lui. En gros, on est une entreprise américaine, on travaille avec toutes les religions, toutes les nationalités, et voilà, quoi, c'est comme ça. Et il me dit, d'ailleurs, Linda, si tu as la moindre remarque d'un salarié chez Groupon, tu me le fais savoir et elle sera sanctionnée. Ce que la DRH l'avait dit aussi. Donc, au contraire, c'est-à-dire que,
C'était
en fait,
supportive,
c'était.
étant.
Exactement. Parce qu'on est quand même présent à Dubaï, on est quand même présent, l'un des big boss mondiaux était à l'époque, donc c'était, il n'est plus là aujourd'hui, était musulman. Ça faisait pas. En fait, pour eux, c'était pas un problème. Enfin, c'était nous, en interne, quelques salariés en interne qui avaient. Parce qu'à l'époque, parce que je disais qu'à l'époque, voilà, quand j'ai commencé à venir avec, en fait, c'était peu de temps après et c'était pas du tout calculé, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment un concours de circonstances, mais peu de temps après Charlie Hebdo. Donc, et c'est pas ce que j'ai appris. En fait, je me suis dit, est-ce qu'ils vont croire que je l'ai fait exprès ou quoi? Et en fait, pas du tout. Hein, voilà, la majorité des personnes est quand même intelligente et n'a pas fait, enfin voilà, n'a pas fait de raccourcis, d'amalgame, quoi, tu vois. Mais c'était moi dans ma tête, en fait, qui me mettait plein de barrières, parce que quand tu regardes les réseaux sociaux, à l'époque, comme maintenant d'ailleurs, mais non, je regarde plus il n'y aurait plus tout ça, sinon on sera malade. Mais tu vois, tu te dis, ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en fait, pas du tout.
D'accord, très bien. On sait que c'est toujours difficile, hein, enfin, en France surtout. En général, les personnes qui portent pas le voile, elles ont peur de se faire virer si elles portent le voile. Et
Ouais.
c'est une décision qui n'est pas facile à prendre.
Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, d'ailleurs, après ça, comment dirais-je, il y a quelques mois, là, j'ai voulu tester un peu le marché de l'emploi ailleurs. Et là, Bah là, c'est là que j'étais vraiment confrontée du coup à ce que je pouvais déjà lire sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est la difficulté pour les musulmans, en l'occurrence les femmes voilées, parce que pour le coup, donc on est visible entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, le fait qu'on porte le voile, on sait qu'on est musulman, quoi. Enfin, les gens savent qu'on est musulman. Et c'est vrai que, chose que laquelle je n'étais pas confrontée jusqu'à quelques mois, où là, en fait, c'est là que j'ai eu. Alors, je vais recommencer à l'envers. Sur LinkedIn, à l'époque, je n'avais pas spécialement je n'avais pas photo de moi sur LinkedIn. J'ai pas mal été démarchée sur LinkedIn. Par des chasseurs, hein, des cabinets ou des startups qui cherchaient donc un head of sales ou un manager, voilà. Et donc à l'époque, je répondais pas, enfin, je leur disais que j'étais pas intéressée parce que je cherchais pas spécialement un nouveau job. Quand là, quelques mois, j'ai voulu un peu voilà, trouver autre chose, j'avais pas comme ma photo sur LinkedIn, mais j'ai commencé à envoyer des CV. À postuler en tout cas, et c'est vrai que j'ai pas forcément eu beaucoup de retours, donc je dis pas forcément que c'est lié à mon voile, hein, parce que j'ai ma photo sur mon CV, mais voilà, je me dis que tu as sûrement reçu plein de candidatures et que voile ou pas voile, voilà. En tout cas, j'avais pas forcément peu de retours, mais quand je compare au fait que sur LinkedIn j'ai quand même été pas mal chassée sans ma photo. Bah, je me dis, c'est quelque chose qui cloche quelque part, je ne sais pas. Ensuite, j'ai commencé à vouloir. J'ai brandé mon profil LinkedIn. J'ai fait appel à une graphiste, etc. Vraiment, j'ai mis le moyen pour faire un profil assez sympa. Donc, j'ai ma photo. Donc, c'est une photo professionnelle. Et puis, donc là, j'ai beaucoup moins été chassée, sauf. Par des boîtes anglo-saxonnes, clairement. Donc, peut-être une ou deux boîtes françaises, mais sinon pas mal de boîtes anglo-saxonnes. Donc, encore une fois, je ne suis pas du genre à me porter en victime, à dire ouais, c'est à cause de mon voile ou quoi. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et ce n'est pas du tout mon. Enfin, voilà, j'aime pas rentrer
Victimisation.
Voilà, c'est ça, exactement. Mais factuellement, c'est un peu ce qui se passe, quoi, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, moi, je continue. En fait, si tu veux, c'est-à-dire que je sais que je vais trouver quelque chose de toute façon. Enfin, après, entre-temps, j'ai commencé à lancer mon activité. Mais à ce moment-là, je me suis dit, tu me fais pas de soucis. S'il y a quand même des boîtes qui me contactent, c'est que j'ai quand même un profil d'intérêt et que je finirai par trouver, tu vois. Et je pense parce que mon expérience chez Groupon est aussi est un vrai plus, clairement. Si je n'avais pas eu d'expérience chez Groupon ou dans une autre boîte voilà, aussi longue, avec beaucoup d'évolution et de changement de poste au sein de la même structure, voilà, si j'ai fait qu'un an à chaque fois dans une boîte, si je reste à chaque fois dans une boîte pendant sur 10 ans, je ne pense pas que j'aurais eu. L'impact n'aurait pas été le même, c'est certain même. Donc, du coup, je pense que mon expérience au Groupon plaît quand même. Là, c'est pour ça que c'est beaucoup de boîtes anglo-saxonnes qui me contactent. Et ensuite bah, après, j'ai des entretiens voilà, avec des entreprises aussi françaises. Après, c'est soit moi, ça ne me plaît pas trop finalement, donc je ne réponds pas, soit je ne leur convainc pas parce qu'ils ont d'autres candidats et ça, bon, c'est le jeu, hein, ça fait partie du jeu, hein, c'est pas. Propre à mon voile, c'est le profil aussi. Ou ça, après, ça, on ne le saura jamais. Ça, effectivement, c'est le voile qui pose problème, mais ça, ils ne le diront jamais. Et je n'ai pas d'éléments pour prouver ça. Et je n'ai clairement pas cherché à prouver ça. Je sais pas, tu sais, je me fais pas. Voilà. Donc, tout ça pour te dire.
Je pense que la vente, c'est un des métiers les plus difficilement accessibles pour les femmes voilées. Non
Ouais.
seulement parce que c'est une femme voilée, non, une femme dans un poste, un haut poste en fait, en management, plus voilée. Et en plus, il y a du client facing. Donc, comme tu dis, même si le client n'est pas forcément raciste ou quoi que ce soit, il peut se dire, voilà, moi je suis pas raciste, mais je sais que les clients peuvent être racistes, donc je préfère
Ouais,
éviter.
exactement. Tout à fait, exactement ça, c'est exactement ça. Donc voilà, donc après, je me suis dit, bon, bah, je vais créer mon propre poste.
Parce que là, en
Donc
fait, tu
là, le...
travailles toujours chez Groupon, mais
Tout à fait.
tu mets dans vers la sortie, enfin, tu commences à préparer ta sortie.
C'est ça, exactement, tout à fait. Et donc, du coup, j'ai créé mon activité là, il y a 2 mois. 2 mois. Donc après, c'est encore très, 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 très petit, hein. Voilà, c'est pas encore, ce sera pas la start-up de demain, ça c'est sûr. Mais en gros, le business model, c'est que je fais donc de la sous-location professionnelle. Donc, pour résumer, c'est de lorsqu'un propriétaire met une annonce de location, donc durée lambda, sur des sites de type Le Bon Coin ou Se Loger, et ben, je réponds à leur demande en leur proposant de louer leur bien. Donc, c'est des biens meublés, hein. C'est pas du non meublé, mais la majorité, c'est des biens meublés. Leur propose de leur louer leur bien. Donc, c'est moi qui loue le bien, ma société, en tout cas, loue le bien. Et derrière, je les mets en location courte durée sur des plateformes type Airbnb, Booking ou Le Bon Coin, en proposant à des clients, donc soit des clients qui se déplacent pour des raisons professionnelles, ça pour du tourisme, ça pour soit ce sont de passage. Et l'idée, voilà, c'est que du coup, je ne prends pas de frais, justement, l'avantage de cette business model-là pour le propriétaire. C'est que je ne suis pas une agence classique qui va prendre des commissions sur le loyer ou des frais, voilà, des frais de gestion. C'est que le propriétaire, lui, touche son loyer tous les mois comme d'habitude. Et moi, d'ailleurs, je gagne ma vie en monétisant, donc en location courte durée. Donc, du coup, en vendant des nuits plus chères sur les plateformes de réservation.
Ok. Toi, tu prends des baux un bail, par exemple, de 1 an ou de longue
C'est
durée, un an,
ça.
2 ans.
C'est 1 an, c'est des baux commerciaux, donc c'est 1 an. Donc quand c'est des meublés, donc c'est 1 an minimum qu'on peut renouveler 3 fois maximum. Et donc je crois que je prends des biens meublés, donc c'est déjà le cas, mais après derrière, je réaménage en rachetant des petits meubles qui manqueraient, voilà, la déco, etc. Après, je fais appel à un photographe, voilà, je vends le truc hyper bien. En fait, l'idée, c'est de mon credo, en tout cas, moi, j'ai 2 appartements depuis, hein, que j'ai mis en ligne. Et là, je suis en train d'en avoir, je suis en train de démarcher pour en avoir d'autres. Mon credo, c'est en gros, pour les clients, c'est de voyager léger. Donc, l'idée, c'est que l'appartement soit vraiment entièrement équipé. Même des coton-tiges jusqu'au shampoing, jusqu'à la bouilloire, jusqu'au sèche-cheveux. Et d'ailleurs, après, je les mets en ligne. Après, là aussi, c'est un challenging parce que quand j'ai lancé l'activité, c'était en plein confinement. Donc, les réservations, forcément, sur Airbnb Booking, bah, à ce moment-là, elles ne sont pas spécialement à la hausse, mais
En 2020, ça n'a pas marché terrible, Booking, enfin, les hôtels et Airbnb.
Ça a freiné quand même parce qu'il y a quand même des gens qui continuent de se déplacer parce qu'ils continuent de
Ouais.
travailler. Mais là, depuis le déconfinement, ça a clairement explosé là. Enfin, il y a eu beaucoup plus de réservations, ce qui est normal. Comment dirais-je? Mince. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, là, les challenges, c'est de pouvoir appliquer un tarif qui soit cohérent par rapport aux autres biens qu'il y a sur Airbnb. Ni trop bas, ni trop élevé, que ça correspond aux prestations que je mets moi en avant, et puis après d'adapter en fonction de la demande, quoi, tu vois, de la demande, et l'idée c'est que tu sais, comme il y a Booking ou Airbnb, il y a l'algorithme, et donc du coup c'est de pouvoir être de pouvoir
Avoir des prix dynamiques.
Voilà. Bah en fait, justement, pour l'instant, je n'applique pas la tarification dynamique où c'est eux qui le décident en fonction de la demande. Je le fais moi-même pour l'instant manuellement. Ça, c'est intéressant quand commence à avoir plusieurs appartements de faire ça parce que quand on a plusieurs appartements, on en a moins de temps que quand on a un ou deux. Et puis après, voilà. Et puis, je suis contente parce que là, pour les appartements que j'ai, donc j'en ai un sur Évry et un sur Troyes. Sur le mois de juillet et août, c'est pas pratiquement tout plein, mais ça réserve bien. Et j'ai vraiment 2 profils, c'est marrant parce qu'entre Évry et Troyes, c'est vraiment 2 clientèles différentes. Et à terme, j'aimerais bien pouvoir en avoir 10. Pour pouvoir en vivre, en fait, il faut que j'en aie au moins 10 dizaine ou 15 d'appartements pour en vivre convenablement, quoi.
Le taux de remplissage minimum, enfin le taux de remplissage pour que ça bénéficie. Bénéficiaire,
70
salon.
bénéficiaires, 70%, allez, non, même pas 60%, on commence à être bénéficiaire. Mais bon, moi, je visais 80% pour vraiment être bah, bien, quoi. Tu vois, plus que
Ouais,
bénéficiaire.
pour faire une bonne marge, c'est
Ouais.
20% de plus, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, après, ça dépend des villes, hein. Par exemple, sur trois, tu sais, sur trois, en fait, les loyers sont, bah, comme c'est pas l'Île-de-France, donc du coup, ils sont moins chers. Mais il y a beaucoup de demandes parce que bah, il y a les magasins d'usine, il y a aussi une ville aussi étudiante, et il y a aussi pas mal d'entreprises. Donc, du coup, justement, la réservation que j'ai eue sur trois, par exemple, c'est la réservation de pas mal de gens qui ont trouvé un beau dans le coin et qui, en attendant de trouver un appartement, bah, prend du Airbnb, ou des étudiants qui commencent la rentrée en septembre et qui, pour l'instant, n'ont pas trouvé de bien Airbnb et qui sont des étudiants étrangers parfois, ou des étudiants qui n'habitent pas dans le secteur. Du coup, d'avenir sur place pour pouvoir visiter des appartements. Et j'ai également des personnes qui viennent parce que je ne suis pas très loin d'un parc d'attraction aussi. Donc, du coup, ça attire aussi forcément les touristes. Voilà.
Ok, bah, c'est trop bien.
Ouais.
J'imagine qu'il faut avoir un bon acompte enfin, avant de commencer.
Ah oui, quand même.
Je paye toute l'année de loyer, plus
Voilà, c'est
la
ça. Oui, il faut
caution,
avoir.
etc.
C'est ça, exactement. Il faut quand même des fonds quand même. En tout cas, pour un premier appart, voilà, il faut à peu près entre 3 et 5 000 euros pour payer les 2 mois de caution, le mois en cours, le meublé un peu quand même. Ben, voilà, parce que dans un meublé, il y a le strict minimum. Parfois, il y a des appartements, tout est complet, tu n'as besoin de rien rajouter, à part la petite déco. Et parfois, tu dois quand même ajouter des choses. Ben, toi, la télé, elle n'est pas forcément. La télé n'est pas obligatoire pour un bien meublé. Du coup, ça t'aide à investir. Après, le retour d'investissement, il faut compter en fonction des villes, ça peut être 2 mois comme 3 mois.
Ah, c'est moins que ce que je pensais. Hein. C'est comme un locataire normal en fait, ce que je paye pas plus
Voilà.
en tant que
Après,
société.
la caution ne te considère pas comme un investissement parce que la caution, tu la récupères après. Tu vois, c'est
Ouais.
l'argent. Même si l'appartement est nickel, hein, il y a plein de raisons parce que le but, c'est de faire attention entre chaque voyageur. Mais la caution, tu la récupères après. Vraiment, l'investissement que tu récupères pas, enfin, c'est le loyer, bah, déjà, mais également
Ouais.
les meubles que tu as achetés, la télé,
Ouais.
après Internet et l'électricité, c'est des charges fixes. Mais surtout, par exemple, là, pour l'appartement d'Évry, où j'ai mis à peu près 2 000 euros sur l'ameublement, en déco, etc., ça, je pense que moi, de septembre, ce sera récupérable. Et sur
Ouais.
trois, pareil.
Et surtout, si tu peux renouveler pour l'année prochaine, ça sera amorti
Exactement, c'est
largement.
ça. C'est ça, exactement. Après, là, j'ai un autre, j'ai une autre, j'ai une piste sur un autre appart. L'investissement sera moins important, pardon, parce que il n'y a pas grand-chose à ajouter, en fait, à part la petite déco. Mais il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport aux autres appartements. Tu vois, ça dépend après des appartements dans lesquels tu cibles, s'il y a des choses à rajouter ou pas.
Ok. Le seul truc, c'est que voilà, faut vraiment s'investir, quoi. Faut pouvoir être capable de répondre au coup de téléphone s'il y a quelque chose qui est
Oui,
cassé
voilà.
ou vérifier que l'appart soit en état à chaque fois. Est-ce que c'est toi qui vérifies à chaque fois ou tu mets en place des
Bah, pour l'instant,
systèmes?
c'est moi parce que je n'ai pas encore bien automatisé ça. Justement, après, le principe de ce business-là, c'est que donc, au départ, pour chaque appartement, il y a un investissement personnel important. Mais une fois que c'est en place, après, c'est automatisé. Donc, j'ai une femme de ménage. Après, je délègue une femme de ménage pour le ménage. Le check-in et check-out, ça, c'est avec les clés. Tu sais, les entrées autonomes, donc ça, c'est pas encore en place parce que
Ouais.
justement, bah, dans mes galères, j'ai des problèmes d'interphone dans les appartements. Du coup, je ne peux pas faire l'entrée autonome. C'est en train de se régler, hein. Donc, j'aurais plus que problème là. Et après, l'idée, c'est que je n'ai plus à. Enfin, j'ai le temps va être beaucoup plus réduit. Mais ça, il faut être réactif parce qu'on reste des hôtes. Mais le temps de l'investissement se réduit au fur et à mesure parce que tout est automatisé après par la suite. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ce modèle-là est intéressant quand tu en as 10-15 appartements et que tout est automatisé, on va travailler 2 heures par jour et voilà quoi. Donc ça, c'est une
Ouais.
activité, ça, qui permet à côté d'avoir une autre activité salariée ou voilà.
Ouais, trop bien. Juste pour revenir encore sur ton expérience chez Groupon, moi je réfléchissais en tant que musulman, les défis qu'il peut y avoir, tu sais, par exemple en finance. Un des défis, c'est pouvoir enfin, d'éviter tout ce qui est intérêt, par exemple, en tant que musulman, par exemple. Est-ce que tu avais, toi, par exemple, des scénarios un peu difficiles où, je sais pas, par exemple, tu as des clients qui vendent de l'alcool ou tu vois, des sortes de dilemmes comme ça?
Ouais, si, j'ai eu ça. Franchement, c'était pas la partie restaurant, en l'occurrence. où voilà, où c'était parfois pas bah, c'était un peu difficile effectivement quand il y avait dans les offres, dans les menus de champagne offert, enfin de champagne compris dans le prix quoi, enfin dans la prestation quoi, ou de la viande, et je savais pas forcément si c'était halal ou pas. C'est vrai que j'étais pas confrontée par rapport à ça, et c'était vraiment c'était difficile. C'est à un moment donné, j'ai vraiment eu des cas de conscience, je le vivais mal. Et après, j'ai essayé de trouver des solutions pour, comment dirais-je, pour...
Pour pas être l'intermédiaire direct.
Ouais, voilà. Ben après, de toute façon, j'étais plus vraiment intermédiaire parce qu'après, j'étais... À un moment donné, je ne signais plus moi, donc j'étais manager. Donc, c'était mes commerciaux qui signaient. Donc, j'allais pas faire les négociations ou autre. Et après, voilà. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué parfois. Mais ces dernières années, je ne signais plus en direct. Mais j'avais quand même parfois, quand on a commencé à venir me voir, oui, Linda, voilà, j'arrive pas à signer ce compte-là. Est-ce que tu penses qu'on pourrait rajouter telle prestation ou pas, c'était l'alcool, et ben, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, donc je pouvais pas dire non, non, tu peux pas le faire, c'est ahlam. C'est pas bien, surtout que bah, je peux pas mélanger au boulot, je peux pas leur. Voilà, quoi. Après, bon, tu vois, je peux pas me permettre de faire ça. Au boulot quoi, donc je faisais quoi, mais c'est vrai que j'étais quand la situation se présentait, ouais, j'étais pas très très à l'aise du tout.
Ouais, j'imagine, c'est pas évident ce genre de situation, puisque dans beaucoup de métiers on a ça, hein, même dans le développement, demander à un développeur de faire créer un site pour un client qui fait un site de champagne ou je sais pas quoi, et ça peut être contre nos valeurs, et c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, à moins de dire, de mettre les règles dès le départ, de ne pas participer à ce genre de transaction, ce qui est difficile dans ton cas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de transactions, j'imagine, qui sont dans les restaurants, etc. Donc, c'est difficile de sortir de là. À part ne pas être intermédiaire direct, c'est pas évident.
Ouais.
Est-ce que tu avais des astuces pour essayer de sortir de certaines situations ?
Bah après, il faut savoir que dans notre modèle, on a beaucoup d'instituts de beauté. Donc, ça, c'est la majorité des deals qu'on signait d'ailleurs. Donc, les restaurants, ça a rapporté beaucoup d'argent parce qu'on touche les deux cibles, hommes et femmes. Mais en termes de volume de deals, c'était beaucoup plus de beauté, donc du coup moi je mettais beaucoup de focus sur la beauté. Après, c'est pas forcément fait volontairement, c'est parce que c'était vraiment, c'était le truc, c'était naturel quand ça se faisait automatiquement, en fait, si tu veux. On avait plus de demandes dans la beauté, massage, manicure, pédicure, coiffure, soin du visage, enfin voilà quoi, tout ça. Donc il y avait ça. Après, beaucoup de deals loisirs aussi. Et voilà,
par l'attraction, tout ça.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que tu as des conseils pour le recrutement, pour les candidats plutôt, pour les candidats qui postulaient, qui veulent postuler à ce genre de position ? Est-ce qu'il y a des choses à éviter, des choses qui marchaient bien, que tu as vues ?
Alors, franchement, c'est vrai que, comment dirais-je, j'ai recruté beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerciaux. Et en fait, je dois être un peu peut-être une des personnes qui ne s'attachent pas trop au CV. C'est-à-dire que, bien sûr, le CV va être un premier filtre, mais j'ai recruté des gens qui n'avaient pas spécialement d'expérience dans des sciences commerciales, où vous avez à peine un an d'expérience, par exemple. Mais en entretien, je pouvais être épatée en entretien. J'ai déjà recruté quelqu'un qui avait très peu d'expérience, mais qui avait une énergie tellement énorme, une envie de... Voilà, quelqu'un qui a connu la galère, qui se bat. Qui se battait, que là, tu sens quand même le vécu, tu sens que la personne, elle dans sa vie, elle s'est toujours battue. J'ai donné sa chance, et sans regret, parce que c'est des personnes qui, justement, du coup, sur une fois en poste, bah, le prouvent. Donc, en fait, ce que moi j'aime bien, c'est l'authenticité, en fait. Les gens qui en font trop, qui veulent trop se vendre, je suis pas spécialement fan. Il faut rester naturel, simple, en fait, tu vois, simple, humble, bien sûr, connaître. Groupon, enfin voilà, par contre, des fois j'ai eu des candidats où ils ne connaissaient pas du tout, connaissaient même pas Groupon, le business model, Voilà, qu'ils n'aient pas acheté chez le Groupon, ce n'est pas grave, hein, on ne va pas leur en vouloir, on ne va pas les discriminer pour ça. Mais quand tu leur demandes de résumer en une phrase, comme si j'étais un enfant de 4 ans, de m'expliquer ce que c'est Groupon, et parfois certains n'étaient pas capables, donc du coup, tu vois, Groupon ou quelqu'un d'autre, hein, ou une autre boîte, hein, quand tu as un entretien, c'est quand même connaître un petit peu ce qu'on.
Business,
le principe de, voilà, de la boîte. Et je trouve ça un peu hallucinant qu'encore aujourd'hui, on rencontre des candidats comme ça qui ne font pas de recherche avec tous les moyens qu'il y a aujourd'hui pour connaître une entreprise. Contrairement à avant, on n'avait pas autant de flux d'informations. C'est quand même hallucinant de ne pas devenir un peu les mains dans les poches. Voilà, bon, en fait, il faut venir préparer tout en étant, tu sais, authentique.
Pas trop en faire, quoi.
Voilà, pas trop en faire, poser des questions pertinentes. Et généralement, on demande aussi souvent dans l'entretien, dans un second temps, un sketch de vente. C'est soit un sketch de vente sur Groupon, soit on va vendre, soit sur le précédent poste du candidat pour qu'il soit à l'aise, qu'il vende un truc qu'il connaît, quoi. Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste pour savoir un peu comment ils se débrouillent, quoi. C'est pas.
Ils sont convaincants.
Voilà, c'est ça, c'est un peu voir comment ils se débrouillent face aux objections, s'ils perdent ses moyens, etc. Sachant qu'on tient bien évidemment en compte le contexte, voilà, du fait que c'est un entretien, ça peut être un peu stressant, donc on tient compte de tout ça, évidemment. Et puis, voilà, après, c'est être sincère, quoi. Tu vois, ça se. Après, je ne sais pas si c'est, encore une fois, ça ressemble à raconter, mais c'est vrai que j'ai rarement eu des échecs de recrutement. Et quand j'en ai eu, enfin, quand j'ai vu que ça ne faisait pas, je ne validais pas par décès. Je n'attendais pas, j'ai dû invalider 2 par décès dans ma vie. Donc, chez Groupon, parce que je n'attendais pas non plus jusqu'à la fin de par décès. Quand je sentais que ça ne faisait pas, au bout d'un mois, déjà je donnais une chance quand même, tu sais, confiance au candidat, je disais écoute, voilà, attends, on fait un premier point à chaque fois, tu sais, c'est pas direct, au bout d'un mois je te dis au revoir, je fais un premier point avec le candidat, avec quelques salaires, en disant bah écoute, voilà, ça ne va pas, voilà, c'est sur quoi je t'attends, je te laisse encore un mois pour te donner une seconde chance, en gros. Et j'ai fait ça 2-3 fois, enfin plusieurs fois. Et il y a des salariés qui, du coup, se sont donnés à fond et aujourd'hui sont encore là, tu vois, parce que du coup, ils ont mis un coup d'accélérateur. Et d'autres vont faire l'effort une semaine et après, voilà. Après, tu sens que tu en as, en fait, tu as des gens, ils ne sont pas faits pour ce métier-là. Hein. C'est ça. Par contre, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas faits. Ils ont été dans ce métier-là, dans ce milieu-là, parce que, peut-être opportunité, une opportunité s'est ouverte il y a quelques années et du coup. Surtout reste dedans, mais en réalité, ça va fait pour ça. Voilà, les encourage, moi, ces gens-là, à faire un bilan de compétences ou à revoir, quoi, en fait, leur si vraiment ils sont faits pour ça, quoi, tu vois.
Okay.
Donc, voilà.
D'accord. Bah, écoute, Linda, on a fait le tour des questions sur ton parcours que je voulais te poser.
D'accord, super.
Je vais finir sur quelques petites questions avant de terminer. Est-ce que tu as une routine, toi, que tu suis régulièrement ? Que ce soit du matin ou dans la journée ou avant de te coucher ou quoi que ce soit ?
Bah en fait, alors là, un peu moins de temps, un peu moins ça, parce que j'ai pas mal de boulot, mais avant, j'ai du sport le matin, c'est-à-dire dès le matin au réveil, c'est vers 6h du matin, 6h30, pour mettre en forme. Et ça allonge vraiment la journée. Mais depuis en quelques temps, là, c'est un peu plus complexe. Mais sinon, ça me... Et puis, je me sens vraiment bien après la séance de sport et j'attaque la journée.
Depuis chez toi ou tu vas dehors ou...
Alors, en fait, c'était à la salle de sport. Mais depuis le confinement, justement, c'est pour ça que j'avais continué le sport chez moi. J'étais équipée chez moi. Mais après, ça devenait le confinement, ça devenait vraiment... pesant et du coup aller de ma chambre à la salle à côté pour la salle de sport, enfin mon sport c'était plus, enfin je me retrouvais plus, j'étais plus emballée. Et là depuis que les salles ont rouvert, je suis repartie un petit peu mais moins qu'avant, du coup là je vais reprendre, mais parce que justement j'ai tellement beaucoup de boulot que t'as
pas fait deuxième activité,
voilà, donc il faut que je rinse cette routine là. Sinon bah en fait bah déjà le matin bah après le bah, le matin, enfin, déjà tôt au sop, voilà, ma prière, ça, c'est, je la loupe pas, quoi. J'ai l'impression de, quand c'est le cas, enfin,
Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois où le réveil n'a pas sonné, ou je vois après qu'il fait jour, je suis « Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai pas fait ma prière, qu'est-ce qui s'est passé? Et je me sens mal. Mais après, bon, bah, quand tu fais pas, voilà, quand c'est pas volontaire ou quoi, ben voilà, je me prends, enfin, je me culpabilise pas non plus à mort, quoi, mais je, voilà, je le fais. Ouais. Sinon, en fait, j'ai des routines que j'ai du mal à parfois garder sur la durée. J'essaie de lire le Coran parfois, mais pas forcément tous les jours. Et ça, par contre, c'est un truc qui me travaille personnellement, parce que quand il y a un jour où je vois que je ne sais pas avoir le Coran, je me sens mal, par exemple. Sinon, après, ça va. Et par contre, je suis quelqu'un d'organisé, c'est-à-dire que quand j'ai une liste de to-do, voilà, à faire.
Ouais.
Et
tous les jours, tu as une liste à suivre.
Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Il faut passer cette liste de to-do là. Et bien sûr, comme les galères viennent toujours voilà, plomber cette liste de to-do là, donc des fois, il y a des urgences à régler entre temps qui viennent, voilà, des urgences qui viennent, qui arrivent, voilà, des imprévus. Du coup, je les règle, mais je me tiens toujours à finir cette to-do list, parce que sinon, ça se cumule à la journée d'après, et voilà. Et d'ailleurs, chez Groupon, ce que j'ai appris, du coup, chez Groupon, que je peux appliquer maintenant, c'est vraiment prioriser ce qui est important, ce qui est urgent, voilà. Avant, j'avais tendance à dire que tout était urgent, il fallait tout faire tout de suite, et en fait, voilà, j'ai appris avec une méthodologie à vraiment à prioriser, à dire ce qui est urgent, c'est urgent, ce qui est important, c'est important, voilà. Ce qui est moins urgent, ça peut attendre, c'est pas très grave, voilà, on va pas mourir, c'est pas fait, quoi. Enfin, d'ailleurs, il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui, on mourra pas si même une urgence n'est pas faite, mais voilà.
Ouais, ok. Est-ce que tu as des recommandations? Tu as cité un livre tout à l'heure, enfin, des recommandations de livres ou de références, de podcasts, si tu écoutes des podcasts.
Oui, alors... Donc, j'aime bien, tout à l'heure, tu parlais du podcast où tu avais vu, donc, Franck, où tu avais écouté Franck Zorn.
Génération de Lecture Self.
Voilà, c'est ça, j'aime bien écouter ces podcasts. J'aime bien aussi écouter les podcasts de... en fait, c'est marrant, mais d'entrepreneurs, quoi. Julien Musy, j'aime bien Julien Musy. J'aime bien aussi...
C'est quoi comme... Ça s'appelle Julien Musy, le podcast ?
Julien Musy, c'est le leader de ton marché. En fait, Julien Musy, c'est un entrepreneur, okay. Et voilà. Ma Juste Valeur aussi, j'aime bien. C'est une femme qui a lancé ce podcast-là. Après, dans les livres, donc moi, j'avais lu Michel Aguilar. Après, je regarde aussi, après, c'est pas vraiment un podcast, hein, c'est sur BFM Business. J'aime bien, le BFM Business, c'est toujours des patrons qui viennent sur le plateau. Et je m'inspire parfois d'eux. En fait, j'aime bien j'aime bien écouter les patrons d'entreprise qui viennent me parler soit d'un nouveau produit ou de leur politique de salariale ou leur politique de commercialisation. J'aime bien ça, je partage leurs expériences, quoi. Ça, pas mal. Après, c'est LinkedIn. Je suis des gens, des coachs, enfin, des, entre guillemets, j'allais dire des seniors, non, quand même, des plus expérimentés, comme il y en a un là qui s'appelle. Jean Pascal Mollet, non. C'est un coach de vente, Jean-Pascal Mollet, qui donne pas mal d'astuces pour les commerciaux, mais également pour les directeurs commerciaux, pour manager les équipes ou même des outils de prospection. Il donne ses astuces. Et puis également Saïd Amzil, j'aime bien. Je ne sais pas si tu connais Saïd Amzil, c'est un entrepreneur.
J'ai interviewé, j'ai une interview de lui.
J'aime beaucoup, franchement, je le trouve hyper humble. Donc voilà, ça c'est des personnes que j'aime bien, qui sont inspirantes.
Ok, trop bien. Écoute, est-ce que j'ai d'autres questions ? Pour te suivre, ou si un auditeur veut te contacter ou pour poser une question ou pour te suivre sur LinkedIn ?
Oui, tout à fait.
Ok, donc je mettrai ton LinkedIn en description, Inch'Allah. Écoute, Linda, on a fait le tour des questions. Je te remercie
D'accord.
beaucoup pour ton temps. C'était vraiment, vraiment intéressant. Et je crois que tu es la première sales que j'interviewe,
Ah ben super, moi
homme
voilà.
ou femme, confondu. Et je suis content que ce soit
Ah.
toi qui travaille dans une grosse entreprise qui est très connue. C'est une très belle aventure que tu as eue avec eux. Et bon, je ne sais pas encore combien de temps tu vas rester, probablement pas très longtemps. Mais
Ouais.
et que ta nouvelle aventure se passe soit bien, Inch'Allah. Enfin, en tout cas, ça a l'air de bien débuter. En tout cas, je me fais pas de soucis pour toi avec l'expérience que tu as. Ça devrait bien se passer, Inch'Allah. Et puis voilà, hein, je te souhaite une bonne continuation.
Bah, merci beaucoup, merci à toi d'avoir proposé ce podcast et d'avoir pensé à moi et c'est top parce que tu bah c'est bah, je trouve enfin ce que tu veux je trouve ça bien franchement c'est top parce que ça permet vraiment de tu touches un peu à toutes les cibles et pas seulement que l'élite si je peux dire ça et non bah, c'est vraiment top ce que tu fais et j'espère que j'ai été claire parce que je pars très très vite aussi.
Non, très clair, t'inquiète pas.
D'accord, bah, super. Mais écoute, hâte en tout cas de voir la suite et puis voir d'écouter, hâte d'écouter tes autres podcasts. Du coup, depuis que qu'on se connaît, bah, je regarde un peu ce que tu faisais et je trouve ça vraiment top. C'est top, c'est génial.
Merci, Linda. À bientôt,
Avec grand
Inch'Allah.
plaisir. À bientôt, Inch'Allah. Bonne
Salam
journée.
alaikum.
Alaykoum salam.
J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.